Alors, on va commencer cette table ronde comme hier. Il y en aura deux d'ici 19h, c'est ça ? C'est notre deadline, comme on dit en bon français. Donc, la première sera sur représentation et idéologie en jeu de rôle, auquel nous avons confié ce panel d'intervenants, à qui je vais en fait demander de se présenter chacun.
Donc, Fabien Fernandez, auteur, illustrateur en jeu de rôle et en roman.
Olivier Servet, anthropologue, qui travaille sur le jeu dans toutes ses dimensions, mais ces dernières années plutôt sur les jeux vidéo, et je suis ravi ici, parce que souvent je dis je suis pas gamer et je travaille sur les jeux vidéo, ici je peux dire je suis rôliste depuis 81. Ça m'a fait du bien. Avec en partie le même groupe, donc c'est de la folie, mais comme ça Arnaud aura l'impression d'être jeune, et ça lui fera du bien.
Donc Isabelle Perrier, je suis prof au lycée, universitaire, chercheuse et auteur et éditeur de jeux de rôle.
Arnaud Cudet, je suis auteur de jeux de rôle et auteur de romans.
Le Grumpf, pareil, auteur, éditeur, illustrateur et un peu militant quand j'ai le temps.
Et donc, comme co-animateur, San Steve, je fais notamment partie de 2D Sans Face, qui publiera peut-être une fois quelque chose, ainsi qu'un collectif de créateurs Swiss Made JDR. Et là, je pense qu'on m'a invité en tant que représentant de Dissident, un média justement des rôlistes et de la culture rôliste.
Donc, Vincent Berry. Homme à tout faire, oui. Non, et accessoirement sociologue. Enfin, je travaille je fais de la sociologie des pratiques de jeu en France et je travaille ici donc au département des sciences de l'éducation et au sein du master sciences du jeu. Voilà.
Donc voilà, représentation et idéologie. On va en fait commencer, si vous vous souvenez, dans les années 80 ou 80, on avait des productions assez de contre-culture. On pense notamment à les publications de Cirrose, comme Bitume, etc. Berlin 18, comme autre exemple. Est-ce que cet aspect est toujours présent ou est-ce que cela a changé ?
Oui. non, je crois que déjà le monde a changé, le monde déjà éditorial. Quand on a le Grumpf là-bas qui écrit, dessine, publie. Après, on a les médias rôlistiques qui ont changé, que ce soit la forme du MOOC ou que ce soit les formes vidéo, les vlogs, les choses comme ça. Et donc, du coup. Je suis même pas sûr que ce soit comparable parce qu'on a peut-être moins de petits éditeurs et encore c'est même pas dit parce que c'est plus facile d'imprimer maintenant et moins cher, donc je sais pas si c'est comparable, surtout c'est surtout ça le truc. Je sais pas du coup si je réponds à la question. Tiens, à toi.
Au niveau de l'usage, puisque tu as parlé là-dessus et que moi c'est plutôt avec Vincent sur ça que je travaille, je pense qu'il y a une vraie transformation, parce que tu as parlé effectivement de l'autonomisation finalement de l'utilisateur qui assume plein de rôles, mais on peut aller même plus loin, hein. Je parle d'imprimante 3D qui devient abordable, ça veut dire que dans toutes les dimensions aujourd'hui il y a la capacité d'autoproduire, et donc pour moi ça c'est une transformation majeure, c'est qu'il y a une certaine indépendance potentielle par rapport à certains grands éditeurs, et en même temps une précarité, parce que les deux, ils vont de pair. Donc, c'est une logique qui est totalement parallèle et qui n'est pas uniquement cantonnée au champ du jeu, puisqu'on parle dans les médias tout le temps, depuis quelques années, en France particulièrement, de l'ubérisation. Je pense qu'en fait, toute une série de ces champs, elle est touchée et je pense que le jeu n'y échappe pas. Donc, oui, effectivement.
Alors, d'habitude, je suis plutôt optimiste comme garçon, mais là, je pense que je vais faire une réponse pessimiste. Je pense que il y a peut-être plus de jeux contre culture autant que dans les années 80, mais je pense qu'ils sont moins diffusés. C'est que dans les années 80, on avait tous entendu parler de Bitume ou de Berlin. Bon, je ne sais pas si Berlin 18 peut vraiment être contre culture, mais admettons. Enfin, on avait tous entendu parler de ces jeux-là. Aujourd'hui, quand ces jeux-là sortent, je suis pas convaincu que tout le monde en entende parler. Donc je pense que leur portée n'est, quand bien même ils existent, je pense que leur portée n'est pas la même. Ouais, moi j'aurais tendance à dire que nous sommes dans une société plus conformiste aujourd'hui que dans les années 80 et que ça a touché tous les secteurs de la société, y compris un truc qui était censé être artisanal, pas du tout mainstream et tout ça, qui est le jeu de rôle.
Moi, je voudrais bien savoir pourquoi Cyberpunk était, enfin pas Cyberpunk, Bitume par exemple, ou les jeux Cyrose étaient contre-culture. Enfin, je veux dire, le jeu de rôle en lui-même était une contre-culture. Mais y compris les jeux des cartes, etc. Et pourtant, ça vendait plein. Mais Bitume, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que ça avait l'air fait main, avec des illustrations qui avaient rien à voir avec celles d'Ars Magica, qui sortaient à la même époque, etc. Ça faisait un côté fanzine, etc. Mais en même temps, enfin, c'était présent dans les journaux. Il y avait des scénarios dans Casus Belli. Il y avait et puis Cyrose était considéré comme un éditeur à part entière, au même titre que les autres qui existaient au même moment. Donc pourquoi, enfin, cet exemple-là, c'est le jeu de rôle en général qui était contre-culture ou c'était
Non, c'était peut-être une idée à soumettre, hein, c'est-à-dire est-ce que le jeu de rôle a été contre-culturel, hein, est-ce qu'il l'est toujours? Moi, il me semble qu'on peut avoir une lecture d'une contre-culture qui arrive. Je ne sais plus, on en avait déjà parlé il y a 2 ans. C'est à l'idée que le sentiment que j'ai, c'est que le jeu de rôle fait peur à personne maintenant. À moins que je me trompe. Non, peut-être que je me trompe là-dessus. C'était un peu ça, c'est-à-dire cette contre-culture, elle était aussi liée à l'émergence d'une jeunesse. On savait pas trop ce qu'ils faisaient. Il y a eu quelque chose de mystérieux autour du jeu de rôle, que les univers qui étaient déployés, effectivement, choquaient le bourgeois un peu. Hein, toutes les médias, les émissions. Donc c'était une question. C'est est-ce que le jeu de rôle continue quand même à explorer des univers de ce type-là? Dans Cyrose, je pensais à Zone. Au jeu de rôle Zone, je sais pas si vous vous rappelez, on jouait un jeune de banlieue en fait. Donc il me semble qu'il y avait cette idée d'explorer aussi des thématiques au début du jeu de rôle un peu sociales. Et est-ce que dans votre vision du champ éditorial, est-ce que cette logique en fait d'exploration de problématiques sociales un peu rebelle, un peu contre-culturelle, c'était en ça hein, cette question là existe toujours, ou est-ce que peut-être les problématiques qu'aborde le jeu de rôle ont évolué et vers quoi?
Non, si je peux me permettre, ça existe toujours, au sens où déjà t'as Monster Art pour explorer l'adolescence et puis tout ce qui est les problèmes de genre et etc. Il y a un autre jeu là qui vient de sortir il n'y a pas longtemps où tu joues des gamins rebelles de 17 balais façon Misfits ou etc. Avec vraiment cette idée de d'être contre le... Enfin, ces explorations existent toujours. Après, par contre, le jeu de rôle effectivement diffuse moins peut-être aujourd'hui qu'à une époque. Mais il n'est plus une contre-culture. Ça, c'est, enfin, en tout cas, c'est peut-être une sous-culture, mais c'est plus une contre-culture. Mmh. Ça,
je suis pas d'accord avec. Je pense qu'on diffuse. Mais c'est pour vous aider. Hein. je pense qu'on diffuse plus ou autant, sauf qu'on est dilué dans une masse qui n'y avait pas à Internet à l'époque. Donc déjà, au niveau des informations, c'est peut-être moins ciblé. On a de la perte. Et accessoirement, par rapport à la population lambda, c'est-à-dire en dehors de nous, les héros, je dirais simplement que les gens, ils y sont baignés à voir plus de choses déjà propres à notre culture dite geek, où je dis au sens large et au sens grand média, hein. Et qui sont peut-être moins choqués par plein de trucs, ils ont plus de sang, on leur fait voir des télé-réalités où les gens ils niquent dans une piscine et que c'est autorisé aux ados et ce genre de trucs. Donc je pense que c'est totalement, tout est banalisé. Donc sans prêcher pour ma paroisse, j'ai Projet Pélican, on joue des Amérindiens. Quelque part c'est un peu punk quoi, et je pense qu'il y a plein d'autres exemples, hein, mais pardon, tu voulais
Peut-être dire un truc paradoxal, c'est que la culture geek, alors, je sais pas si elle a gagné, mais elle s'est répandue, c'est clair, et au moins si le jeu de rôle, c'était David Perron qui mettait sur son Facebook une citation, ouais les geeks et tout, on connaît trop, ah t'as fait du jeu de rôle, ah non je sais pas ce que c'est, bon voilà, c'est que le jeu de rôle me reste quand même confidentiel, mais c'est vrai que c'est pas vraiment de la contre-culture. Et à la limite, s'il y avait une contre-culture pour moi au sein du jeu de rôle, c'est toutes les expériences justement où on joue pas un truc geek. Où on joue des enfants sous la pluie, ou voilà, où on joue des choses assez... qui sont ni des punks, ni des gens qui font de l'aventure, ni du cyberpunk, ni des super-héros, ni du Metfan, ni du Tolkien, mais autre chose.
Moi, je voudrais rajouter un élément qui m'apparaît important, c'est la transformation aussi de la consommation. Je pense que aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, on a vraiment cette pratique de la réappropriation et du bricolage qu'on a vu émerger dans plein de loisirs. Et en fait, le jeu de rôle, il est rebricolé en permanence à la sauce des joueurs. Moi, il y a que 2-3 ans, on a fait quelques enquêtes en Belgique francophone et on voyait clairement que cette pratique-là s'hyper développait, en fait. Et que ce qui était la norme, c'était vraiment de se réapproprier les choses. Et donc, mesurer à partir de l'édition et des jeux qui sortent, ça me semble plus nécessairement le bon curseur, en fait. Le curseur aujourd'hui, c'est plutôt qu'est-ce qu'ils en font, parce que c'est là, en fait, que ça se produit et qu'il y a vraiment un travail presque accessible à tous, beaucoup plus développé, de cette réappropriation où on rebricole les règles, où on rebricole les univers qu'on a, où on les mélange, etc. Alors ça a toujours été à l'origine du jeu de rôle, mais ici, en tout cas nous, dans la pratique, on voit vraiment que cette dimension-là est importante.
Et si je peux me permettre juste d'ajouter un truc pour pas trop monopoliser la parole, essayez de filer un fanzine papier photocopié en noir et blanc à l'heure actuelle à des joueurs, vous allez vous faire cracher dessus, quoi.
C'est pas dans l'OSR.
Et juste, je pense que la contre-culture, il y a quand même des traces, et notamment pendant 2-3 jours des discussions sur des discussions de roulistes et autres tavernes, l'auteur, est-ce qu'il faut le payer, est-ce qu'on peut pirater, est-ce qu'on peut pas pirater, et on voit quand même que les gens sont encore dans une posture punk de contre-culture, payer un auteur, mais pour refaire quoi.
Ça, c'est clair.
Plaît-il? J'aurais tendance à dire que... en même temps, je suis d'accord avec toi et complètement pas d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que le jeu de rôle, fondamentalement, est contre-culture, en ce sens que nous ne sommes pas les spectateurs d'une histoire, on en est les acteurs. Alors, on pourrait dire pareil du jeu vidéo, mais je pense que dans le jeu de rôle, on a quand même une marge d'action et une marge de manœuvre et une implication qui peut être supérieure à ce qu'on voit dans le jeu vidéo. Donc, le jeu de rôle ne sera contre-culture que si notre pratique à nous est contre-culture et que ce qu'on apporte à la table de jeu est contre-culture. Donc, ce sera contre-culture si on a envie d'être contre-culture, nous. Le groupe en parlait déjà. Il y a des gens qui jouent au jeu de rôle de façon extrêmement réactionnaire. Et par ailleurs, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'il y a, il y a de la réappropriation et c'est quelque chose qui prend beaucoup d'essor. J'aurais tendance à dire que par rapport à une pratique hyper, comment est-ce que je pourrais dire ça sans être blessant. Du jeu de rôle qui consiste à acheter les produits du commerce et à les jouer tels quels, je pense que la réappropriation reste minoritaire. Je pense que si on voulait répondre oui à la question initiale de savoir est-ce que les jeux qui sortent sont contre-culture, etc., il faudrait une révolution au sein du monde éditorial aujourd'hui pour retrouver des trucs... alors punk, je sais pas, qu'est-ce que serait le punk au XXIe siècle, mais en tout cas, contre-culture, il y aurait du boulot, quoi.
Juste une réponse rapide, c'est pour ça peut-être que John a mis son utopie en Belgique, en fait.
Bien, merci. Alors, l'autre question qu'on avait, c'était plus une question un peu générale et un peu historique, au fond. On va vous amener vraiment sur l'histoire du... C'est le moment, de faire un point. En fait, on termine la journée en faisant un point sur le... est-ce qu'il a existé ou est-ce que ça s'est manifesté des mouvements politiques autour du jeu de rôle? Je veux dire par là, quand récemment vous avez eu Nuit Debout, vous avez vu se développer en fait notamment du milieu plutôt du jeu de société, Jeux Debout, c'est-à-dire des gens qui sont mobilisés, qui étaient présents à Nuit Debout et qui revendiquaient en fait une forme de jeu qui interroge la société, qui interroge les systèmes politiques. Est-ce que le jeu de rôle là-dedans s'insère dans cette histoire de mouvement politique? Est-ce qu'il y a une communauté, à votre avis, qui est une communauté politique de joueurs de jeux de rôle?
Ouais, voilà. Non, mais pour continuer sur le point de vue belge, mais il est intéressant, nous, on n'a pas nos nuits debout, on a tout autre chose, mais en gros, c'est la même chose, mais ça s'appelle tout autre chose, et ça dit bien son nom. Et c'est intéressant de voir que dans cette génération qui fait, on va dire, les 15-40 ans, le jeu de rôle est en train d'être réimplanté comme un outil de conscientisation. Et donc, alors effectivement... C'est un groupe très particulier, mais aujourd'hui, y a vraiment une lame de fond transversale dans la société belge qui, à mon avis, va pas tout à fait dans le même sens que la lame de fond qu'on va voir demain aux élections françaises. Mais cet élément-là, il est, pour moi... Il y a un vrai usage politique, en fait, du jeu de rôle qui est en train de réémerger. Alors, il n'est pas du tout majoritaire, mais je trouve que symboliquement, c'est tout à fait intéressant de se rendre compte que face à une génération de jeunes dont l'apprentissage est de moins en moins scolaire et qui recherche beaucoup plus l'expérimentation, le jeu de rôle est vraiment quelque chose d'adapté. Et donc, que des acteurs politiques alternatifs se saisissent, en fait, du jeu de rôle pour en faire un outil de transmission aujourd'hui, pour moi, c'est un symbole et c'est un signe intéressant. Alors, ça reste... démographiquement peu, mais symboliquement pour moi c'est très fort.
Déjà la première chose, c'est vrai que des hommes politiques et des femmes politiques fassent leur coming out de rôlistes, ce serait déjà pas mal. On les listera comme les stars. J'ai participé à Nuit Debout en tant qu'acteur du milieu auteur-illustrateur. C'était intéressant. J'ai approché le point jeu d'assez loin, donc je suis pas forcément un bon jugement, mais je sais pas si c'était pas simplement une étape comme les autres de profiter d'un moment convivial plus qu'autre chose. Et donc ma seule expérience politique dans le monde réel du jeu de rôle, c'est plus syndical quelque part. Avec Arnaud, on a monté le GIR. Le groupement d'entraide des auteurs rôlistes. Donc c'est un petit truc qui paye pas de mine comme ça, mais je pense qu'on a réussi à donner des... L'idée de base, c'est de s'aider entre auteurs, c'est-à-dire les professionnels aident ceux qui le sont moins, ne serait-ce que pour avoir les mêmes droits d'auteur ou assimiler, se connaître les lois, le côté juridique et tout ça. On a touché quelques personnes, je sais pas après, parce qu'on a sorti une série d'articles, et puis là c'est vrai que ça va faire presque un an que c'est un peu mort, donc on relaie un peu des trucs sur la page Facebook, mais sans plus. Peut-être qu'on a fait le tour des infos qu'on voulait passer. Et là, récemment, il y a un syndicat national du jeu qui vient de se créer, et dont je viens d'adhérer, qui regroupe tous les acteurs professionnels du jeu, que ce soit du jeu de plateau ou du jeu de rôle. Donc je ne sais pas ce que ça donnera, mais c'est pareil pour légitimiser le statut d'auteur dans le jeu. Donc pour moi, ça rejoint le milieu politique, mais voilà, c'est tout.
Oui, effectivement... Bah... C'est bon ? Ok, j'ai plus d'oreilles. Merci Fabien, de toute façon j'allais en parler. Effectivement, la seule initiative que je connaisse pour l'instant, c'est celle-là. Moi, je vais encore faire une intervention pessimiste. Moi, j'ai toujours du mal avec la communauté rôliste, parce que j'ai pas l'impression qu'elle existe. Alors bien sûr, les rôlistes existent, voilà. Mais est-ce qu'il y a un vrai sentiment de communauté ? Est-ce qu'il y a des vrais outils ? Enfin... en plus, je vais faire mon vieux con à Décrota, mais à l'époque, dans les années 80, Casus Belli, à tort ou à raison, et avec tous les défauts que ça pouvait avoir, c'était une espèce de truc prescripteur, et c'était une référence, et bon, avec éventuellement tous les défauts que ça pouvait avoir. Aujourd'hui, même si Casus Belli existe toujours, j'ai pas le sentiment, mais je me trompe peut-être, qu'il ait retrouvé la place qu'il avait à l'époque, et qu'il y ait le même sentiment de communauté qu'il y avait à l'époque. Donc peut-être qu'avant d'envisager les rôlistes comme acteurs politiques, peut-être que tout simplement il faudrait restructurer la communauté rôliste, retrouver des grands salons, des grandes conventions, des grands moments où se retrouver les uns les autres. Et après, sur une deuxième étape, on pourrait imaginer des intégrations plus politiques. Mais sinon, pour rebondir sur ce que disait Fabien à propos du GIR, et oui, on avait très envie que ça s'appelle GIR, on est ouvert à toutes les... les portes sont ouvertes. S'il y a des auteurs jeunes, moins jeunes, de gauche ou pas de gauche, qui veulent rejoindre les rangs, il n'y a pas de souci, on les accueillera et on répondra des articles. Et parce que... dans la série, enfin dans dans la dimension politique du milieu du jeu de rôle, il y a ce qu'on peut apporter à l'extérieur de la communauté du jeu de rôle, mais il y a aussi, faut aussi que je trouve une façon de le dire pas blessante. Non, je vais pas y arriver. La façon dont on pourrait déjà faire le ménage chez nous, et notamment, enfin, moi je prêche pour ma paroisse, notamment la place des auteurs, le statut des auteurs, la façon dont les auteurs peuvent vivre de leur métier ou pas d'ailleurs. Et voilà, on peut aussi commencer par ça.
Sauver les auteurs, sauver un jeu.
Peut-être, d'ailleurs, je sais qu'il y a les éditeurs de l'imaginaire qui sont en train de bouger. Et alors, moi, étant universitaire et dans le jeu de rôle, je me dis que ça nous concerne aussi. Parce que c'est vrai que, à part ici et ponctuellement dans des colloques, comme on peut le faire avec Olivier et tout. Oui, on parle de jeu de rôle, mais ça reste quand même bien ghettoisé. Et c'est vrai que si eux, ils commencent à s'emparer de quelque chose, il faudrait peut-être aussi que nous, on s'en empare et peut-être revoir notamment les termes de légitimité culturelle, d'arrêter de penser qu'on lit de la fantasy parce qu'on a moins de 14 ans, ou qu'on est escapiste, ou qu'on n'est pas très malin, et qu'il n'y a que Proust dans la vie, et que les auteurs, soit de jeux, soit de romans, d'imaginaire, ne savent pas écrire, etc.
Juste un élément. Donc quelque chose qui me paraît essentiel pour répondre à ton pessimisme, mais qui m'apparaît important, c'est je pense aussi on peut lire tout à fait cette histoire-là, tout à fait à l'inverse, c'est-à-dire en fait un succès paradoxal. En fait, le jeu de rôle, il a été récupéré partout, il s'est disséminé partout, on le trouve en formation, il est incontournable, on le trouve en entreprise, on le trouve à l'université, et pas seulement dans des colloques sur le jeu de rôle, mais aussi il s'est utilisé comme méthode d'apprentissage dans les universités. Et donc, le problème, c'est que le terme ne veut plus dire ce qu'il voulait dire auparavant, il ne veut plus dire dans la tête de tout contemporain une identité particulière et une appartenance liée à cette identité. Et je pense que le problème, il est là, en fait, aujourd'hui. Et donc, en fait, ça va dans la même direction, mais je pense que cet élément d'analyse, il m'apparaît tout à fait important pour comprendre ce qui se joue et ce qu'il faut travailler aujourd'hui.
Une petite nuance, moi j'utiliserais peut-être plutôt le terme exploiter qu'utiliser, mais ça c'est autre chose. Je voudrais ajouter sur ces collectifs d'auteurs, puisque j'appartiens aussi à d'autres collectifs, notamment la charte des auteurs illustrateurs jeunesse, donc il faut être auteur ou illustrateur jeunesse pour pouvoir adhérer. Mais quand on n'est pas de ce statut-là, on peut aussi profiter de ce qu'il y a sur le site en termes juridiques, et ce qui est vachement intéressant, donc aussi pour les auteurs de jeux. Ne serait-ce qu'on se bat de plus en plus pour les tarifs d'intervention. Alors je sais que c'est encore plus difficile dans le jeu de rôle, mais sur les salons et ce genre de choses, parce que on veut simplement être vu comme des gens qui font un vrai métier, quoi, en fait. Et pour la note pessimiste, pour aller dans le sens pessimiste, je suis pas sûr qu'avec la ministre de la culture qu'on a là, ça aille dans le sens des auteurs.
C'est clair qu'aujourd'hui, l'une des luttes, mais qui est pas spécifique au jeu de rôle, hein, mais qui est de la place du producteur de contenu, de l'auteur, quoi, l'auteur illustrateur, c'est-à-dire celui qui est à l'origine du projet, qui le conçoit, qui le réalise, etc. Et ensuite toute la chaîne économique du livre et de la distribution et de la vente en boutique, etc. Il y a plein de choses qui bougent et qui se passent, mais c'est un vrai problème politique. C'est un problème de valeur sociale, enfin sociétale en tout cas. C'est-à-dire reconnaître que l'auteur, c'est pas juste quelqu'un qui peut vivre avec peanuts parce que il se fait plaisir dans son coin à faire ses petits Mickey. Non, la part du lion ne doit pas forcément revenir ni aux boutiques, ni aux distributeurs, même s'ils ont leur rôle à jouer dans la chaîne économique. Quelque part, on est des producteurs de lait, quoi. Enfin, on a le même statut. On gagne que dalle au litre de lait, et il suffirait qu'on ait quelques centimes de plus pour que ça fasse toute la différence, quoi. Donc il y a ce problème-là. Alors c'est vrai que c'est un problème qu'on commence, qui a commencé à être contourné avec les crowdfunding. Le vent d'ailleurs, pas mal de protestations de la part de ceux qui touchent pas, de ceux qui ne touchent plus leur part sur la production économique du livre. Mais c'est quelque chose qui est alors dans le jeu de rôle, on a des solutions avec le crowdfunding, on a des solutions avec les ventes directes, avec Internet, etc. En bande dessinée, c'est beaucoup plus compliqué. Pour les romans, c'est encore plus compliqué. Pour avec le principe de retour et de vente, etc. Mais dans tous les cas, enfin, quelle que soit la filière, l'auteur, c'est toujours de toute façon la cinquième roue du carrosse, souvent. Sauf si tu vends vraiment beaucoup, beaucoup. Mais même quand tu vends beaucoup, beaucoup, en réalité, ta part, ton pourcentage, ok, tu vas toucher beaucoup sur, parce que tu vas toucher beaucoup d'argent parce que tu vends beaucoup, mais ton pourcentage, il n'augmente pas forcément.
Faut renégocier.
T'es en position de négocier parce que tu crées un rapport de force, mais en fait, je pense que c'est quelque chose parce que dans nos sociétés, le statut d'auteur dans la tête des gens, dans la tête des producteurs économiques, reste le fait d'être un auteur ou d'un illustrateur ou d'un producteur de contenu culturel. Reste quelque chose de sous-évalué,
mais oui, c'est
un peu méprisé, un peu.
C'est ce que j'allais dire par rapport à la table ronde, enfin à l'intervention juste avant, c'est que c'est aussi une éducation des consommateurs de culture qu'il faut refaire.
Il me semble qu'il y a deux discours qui sont difficile. Le premier, c'est le discours de la gratuité, parce que la gratuité, c'est très bien, et il y a des gens qui font ça très bien, et voilà. Mais souvent, c'est un discours qui est perverti au sens où il est récupéré, notamment par les industries culturelles et par tout plein de gens qui expliquent que, voilà quoi, la gratuité, c'est formidable, vous vous éclatez, pourquoi vous faites pas ça gratuitement? Ça, c'est la première chose. Et ça va de fait avec le discours du vrai travail. Et qui est quand même un vrai souci. C'est-à-dire que très régulièrement, au bout d'un moment, la question c'est, vous n'avez qu'à vous trouver un vrai travail. Alors, moi, ayant un vrai travail, ça me touche moyen, mais j'ai plein d'amis auteurs et ça me touche tout court.
Il suffit de remettre la chose à plat, peut-être. Il y a plusieurs solutions. Hein. D'un point de vue théorique, c'est si l'auteur gagne plus, il a plus de chances de donner du contenu gratuit à côté de ce qu'il fait. Et puis aussi de comme proposer plus largement depuis des années, notamment par le Snack BD, c'est ce qu'a dit Victor Hugo, c'est-à-dire une fois que les auteurs sont morts, au bout d'un moment, faut arrêter de payer juste les éditeurs, puisque les auteurs ils sont morts, donc cet argent, le réutiliser et le donner aux auteurs qui sont vivants. Ça peut être une des solutions.
Il y a deux choses. Enfin, déjà, effectivement, pour la gratuité... d'abord, c'est un don, c'est pas un dû, mais ça peut être un don. Effectivement, c'est absolument normal. Après, il y a une conception sociale du travail hiérarchisé, du travail libéré. Enfin, il y a l'emploi, il y a le travail, et la notion aussi qu'un travail doit quelque part doit faire souffrir. Enfin, en tout cas, on doit souffrir au travail pour mériter son salaire. Il y a un côté, il faut mériter les choses.
C'est dans l'étymologie.
Déjà, c'est dans l'étymologie. Et puis, Bernard Friot, qui a pas mal travaillé sur les notions de travail libéré, etc., qui est super intéressant. Et c'est des notions qui disent que toute activité humaine est un travail. Enfin, apprendre à jouer de la guitare pour soi-même, c'est un travail. C'est un travail libéré. C'est un travail pour lequel on n'est pas payé, mais c'est un travail. Et écrire des bouquins... Eh ben, ok, c'est un travail libéré parce qu'on le fait pour soi, on le fait pour les autres, etc. Mais c'est un travail. Et à un moment donné, c'est le rapport à ce travail qui est important. Et puis le rapport au fait que, et c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, mais un auteur qui est payé pour écrire, qui gagne sa vie, qui n'a pas besoin de faire autre chose pour payer ses factures, eh ben, il s'améliore beaucoup plus vite, il peut produire plus, il peut apprendre, prendre du temps pour apprendre des choses supplémentaires, pour se former. Il peut, au fur et à mesure, avec les années, les années, les années, il apprend à mieux faire son travail, parce qu'il y a un vrai apprentissage qu'on ne peut pas investir si on est obligé, effectivement, de bosser 40 heures par semaine à côté, etc. Quoi. Et ça, c'est un vrai rapport à la notion d'emploi, de travail, de salaire mérité, etc. Enfin, c'est extrêmement politique, là, pour le coup.
Et c'est aussi un héritage... Et c'est aussi beaucoup, du coup, un héritage empoisonné des romantiques, où, depuis le 19e siècle, on pense que le type qui crée, il fait ça parce qu'il est génial et qu'il fait ça sous sa douche. Et du coup, quel est l'intérêt de payer un auteur pour qu'il s'améliore, alors que, de toute façon, c'est inné qu'il fait ça sous sa douche? Et, en fait, le problème, il est là.
Non, le problème, c'est que tu peux pas payer l'eau de la douche.
Ouais, à l'époque où je faisais de la BD, il y a un éditeur qui m'avait dit, enfin vraiment, il m'avait dit, mais pourquoi je te filerais des avaloirs? Tu sais, Moi, je fais bosser des gamins de, je peux faire bosser des gamins de 20 balais qui sortent d'école d'art. Ils sont encore chez papa, maman. Eux, ils paieraient pour éditer un truc et montrer à papa, maman que les 2 ans ou 4 ans d'école d'art, ça n'a pas été pour rien et d'avoir leur nom en haut d'un bouquin et d'être enfin reconnu. Et du coup, il avait absolument aucune espèce de morale par rapport à ça ou de retenue par rapport au fait de pas payer ses auteurs. Et de faire son blé sur leur dos parce qu'ils considéraient que finalement ils leur faisaient une fleur quoi. Et il y a vachement ça quand, dans le rapport entre l'éditeur, les éditeurs et après tout j'ai dit de votre jeu je vous fais une fleur. Et non moi auteur je te fais une fleur en te proposant mon truc. Tu vas te faire des thunes sur mon boulot donc maintenant tu me payes.
Mais derrière cette question pour moi, enfin parce que c'est amusant hein, comme anthropologue je travaille dans différents milieux et quand je travaille avec des agriculteurs bio qui sont plutôt sur des petites surfaces, je retrouve le même type de remarques. Quand je travaille avec des journalistes, n'en parlons pas. Et je pense que la question de fond c'est la question quelle structure organisationnelle intermédiaire. En fait le problème c'est qu'on reste dans un système qui est un héritage d'une autre manière de fonctionner. Et aujourd'hui dans d'autres secteurs on voit par exemple complètement réémerger la logique coopérativiste, par exemple, qu'on pensait morte, enterrée, terminée, et elle est en train de réémerger, ou des modèles horizontaux. Et je pense que, aujourd'hui, on est vraiment dans du test, quoi. On l'a vu dans le monde du journalisme avec Mediapart ou avec d'autres types de médias qui ont lancé toute une série d'expériences, on pourrait dire, puis après qui fonctionnent ou moins bien. Et je pense que le jeu de rôle, il est confronté en fait à cette nécessité d'expérimentation.
T'arrives à une autre contrainte qui est justement prendre le risque. Et à l'heure actuelle, puisque pour revenir sur le domaine un peu plus éditorial, il y a de moins en moins de personnes, éditorial au sens large, hein, moins en moins de personnes qui prennent le risque. Ils sont contents de voir qu'Harry Potter se fait des thunes et après ils vont se faire des semi-Harry Potter pour essayer de se faire des thunes derrière. Mais ils n'ont pas pris le risque de faire Harry Potter d'abord, parce que la personne qui a pris le risque, c'était un vrai risque à ce moment-là. Et en fait, on tourne en boucle, sauf si on a la chance de tomber sur des vrais éditeurs, éditrices. Bon, moi, ça va, j'ai un peu de chance et je connais des auteurs qui ont cette chance, mais c'est pas gagné pour tout le monde. Et il y a plein d'éditeurs qui prennent zéro risque parce que c'est aussi un risque financier pour eux et c'est très fragile en fait une maison d'édition malgré nous de notre côté d'auteur quoi. Enfin.
T'avais une troisième question peut-être.
Peut-être, oui. Est-ce que quelqu'un dans le public aurait une question? Ah, oui. Alors, je vais me balader avec le micro, en espérant qu'il fonctionne toujours.
Oui, en fait, je voulais savoir ce que, bon, à côté de mes super activités de prof, en fait, j'essaye d'être plasticien aussi, en fait, et j'ai remarqué qu'il y avait une logique justement dans cette, oui, voilà, exactement. Le mot important étant essaye. Du coup, j'ai remarqué qu'il y avait une logique qui était aussi celle de, pour être, on te demande de faire un travail si tu es reconnu. Mais bon, naturellement, pour être reconnu, il faudrait bien avoir commencé quelque part. Donc, en fait, le serpent se mord dans la queue et tu peux jamais rentrer dans ce système-là de gens qui semblent avoir acquis une sorte de reconnaissance un peu comme ça, stellaire, je pourrais dire. Donc, je me demande s'il y avait la même, si c'était la même chose, en fait, voilà, dans le milieu de, enfin, des auteurs, ouais, dans le jeu de rôle, tout ça. Voilà.
Vous avez les micros devant vous ?
Ouais. Non, vraiment, ce ne sera pas ma table ronde. En tout cas, ce ne sera pas ma table ronde de l'optimisme. la réponse qui me vient, c'est si au moins il y avait de la reconnaissance. Alors, moi, j'ai de la chance parce que les éditeurs avec qui je travaille, ça se passe bien. Mais ce que j'ai toujours trouvé bizarre dans le milieu professionnel du jeu de rôle, c'est que pour des gens qui jouent systématiquement avec le concept d'expérience dans nos jeux, il est assez peu reconnu professionnellement. C'est-à-dire que, enfin, je parle sous le contrôle, enfin, sous le contrôle, on verra si Fabien a d'autres choses à dire sur ce sujet, ou John, mais va essayer de négocier tes tarifs dans le jeu de rôle, c'est pas gagné. J'ai eu, enfin, moi en tout cas, dans ma carrière, à part quelques exceptions qui ont été bien heureuses, j'ai eu l'impression de systématiquement redémarrer à zéro à chaque fois. Au bout de 20 ans, ça fatigue un peu quand même. Donc. Mais sinon, pour peut-être plus répondre à ta question, mais y apporter toujours une réponse pessimiste, c'est oui, il y a du copinage aussi dans le jeu de rôle. Moi, j'ai eu la chance d'éditer mes jeux et puis de les éditer dans des projets plutôt prestigieux. Mais je pense que ça a été possible parce que avant d'être auteur, j'allais dire vrai auteur, j'ai été pigiste pendant 20 ans et que je connaissais tout le monde ou presque. Je pense que quelqu'un qui serait arrivé de nulle part et qui aurait eu la même démarche que moi d'aller voir les éditeurs, il se serait fait balader, mais d'une force astronomique, quoi.
Il y a un truc dans le fait de produire de la culture, enfin, d'être auteur et puis ou illustrateur, enfin, puis c'est vrai que les milieux culturels, enfin, en tout cas dans le milieu d'édition, c'est quasiment toujours il faut réseauter à main. Une maison d'édition reçoit je sais pas combien de pardon. Ouais. Une maison d'édition reçoit je sais pas combien de projets par an, et en fait les projets qui sont lus, c'est les projets soit qui sont soutenus par quelqu'un déjà de la maison qui dit tiens, en fait celui-là faut que tu le lises, etc. Soit ils vont le voir directement parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils se serrent la main, parce que ils passent moi j'ai pas mal de projets qui ont pu se faire juste parce qu'il y a eu un coup de fil passé. Parce que t'appelles la bonne personne du premier coup, tu lui dis tiens, t'as pas un boulot pour moi là en ce moment, et 2 heures plus tard j'ai un taf qui m'arrive sur le mail et en avant, quoi. Donc ouais, c'est clair que de toute façon tous les milieux comme ça se base énormément sur le réseau et les rencontres et les échanges et etc. Et puis au bout d'un moment on stabilise son réseau. Et du coup, quand les petits jeunes arrivent derrière pour rentrer dans le réseau, on fait ah non, mais on est déjà plein. Désolé, le bus est plein. Salut, quoi. Et c'est vrai. Enfin, de génération en génération, il y a des bus comme ça qui partent et c'est difficile de courir après. Donc ça, c'est un premier truc. Et puis le deuxième truc, c'est la construction d'une carrière d'auteur entre guillemets. Elle se fait par des rencontres, elle se fait par du boulot. En fait, je pense qu'il faut. On parlait de gratuité tout à l'heure, mais c'est vrai que. Alors c'est compliqué, hein, mais faut pour se faire reconnaître, en tout cas, faut commencer par proposer des choses. Faut mettre ses couilles sur la table quelque part, quoi, et puis proposer des choses en avant, et puis après on voit comment le public réagit. Alors au début il y a 3 personnes, et puis au bout d'un moment il y en a peut-être un peu plus, et puis si c'est suffisamment bon, bah ça. Et puis il y a des rencontres, et puis on travaille en collectif, et puis il y a des échanges avec d'autres personnes qui critiquent le boulot, reviennent. Enfin c'est un boulot super long. Hein. Quand j'ai commencé à me lancer dans l'idée de faire un peu ce boulot-là d'illustrateur, etc. Il y a plus de 20 ans, il y avait un auteur de BD qui m'avait dit de toute façon tu commenceras à gagner ta vie à peu près correctement 10 ans après avoir sorti ton premier truc professionnel. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai commencé à stabiliser mes revenus, pas très élevés, mais à les stabiliser 10 ans après avoir sorti mon premier contrat auprès d'un truc qui était un tout petit truc à la con, mais voilà. Et c'est très très long et c'est très compliqué, quoi. Mais il faut pas désespérer.
Ouais.
Non, arrête, mais pas de pessimiste.
Non, c'est quasiment optimiste là. C'est quasiment. J'allais dire à l'inverse, mais en complément d'eux, il y a des fois il faut savoir dire non. Alors je me trompe peut-être, mais il me semble que parmi les rares fois où j'ai gagné le respect d'éditeurs, il y a des moments où je leur ai dit non parce que leur projet me paraissait tellement mal fichu ou dans des conditions qui étaient tellement pas possibles que j'ai non, ça va pas être possible, ma bonne dame. Et on pourrait se dire qu'en disant non à un éditeur, on se condamne à être voué aux gémonies jusqu'à des temps immémoriaux. Et en fait, non, ça a eu plutôt l'effet inverse. Voilà. Donc, n'hésitez pas à dire non. Ouais.
C'est une manière d'imposer sa valeur personnelle et sa volonté dans le truc aussi, quoi.
Alors, moi, j'aurais un discours plus optimiste. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment, de rencontrer la bonne personne et.
Je vais dire ici maintenant.
Non. Voilà, à qui je dois à peu près tout ce que j'ai fait dans le jeu de rôle. Je peux dire son nom, c'est Sébastien Cellerin, voilà. Et maintenant, je suis plus ou moins en position pour pouvoir faire la même chose pour d'autres gens, et j'en suis très contente parce que je trouve que c'est très bien. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à l'inverse, je me suis retrouvée dans des positions éditoriales où on crevait la dalle pour trouver des auteurs, parce que c'est toujours aussi compliqué. Parce qu'en fait, souvent, les gens, ils osent pas envoyer des projets. où ils envoient des trucs bizarres, mais souvent ils osent pas en fait. Par exemple, à JDRMag, depuis qu'on a fait un édito où on a dit qu'on aimerait bien que les gens nous envoient des choses, ben, les gens se sont manifestés, on leur a fait écrire des trucs et c'était très bien et je pense qu'il faut le réaffirmer. Donc voilà, ça marche aussi comme ça et ma foi, je serais très très heureuse de découvrir des super auteurs avec qui après je pourrais bosser. Et par contre, bon, ça c'est le côté pas très optimiste. Bah désolé, ouais, c'est vrai. Non mais t'as raison, mais c'est le truc qui m'est venu. Et c'est que moi je suis dans une position où je n'en vis pas. Et je n'en vivrai probablement jamais, et c'est pas forcément mon but. Et du coup, la logique est très différente. C'est-à-dire que c'est moins grave d'attendre un peu, de pas pinailler sur les sous, etc. Quand on a, je vais pas dire un vrai travail, mais quand on a un autre travail à côté et qu'on gagne sa vie par ailleurs, voilà. Du coup, c'est une autre problématique. Et je pense qu'il faut aussi se poser la question, est-ce que je veux me faire plaisir, mettre mon nom sur des bouquins, faire des projets, avoir l'impression de donner naissance à des trucs et pouvoir se financer son hommage couverture de luxe, quoi. Et où est-ce que je veux en vivre? Et c'est pas la même chose.
Alors je vais faire le pessimiste puisque j'ai fait l'optimiste tout à l'heure. Non, mais c'est pas le. Je vais relativiser. Je pense que c'est important de se rendre compte aussi que le jeu de rôle, c'est un champ très spécifique. En France, il y a 20 auteurs de fiction qui en vivent. Après, tout le reste, c'est les médias vous diront. Il y a 20 auteurs de cet ordre-là, entre 18 et 22, qui en vivent réellement. Pour un champ, évidemment, 10 fois plus large, 100 fois plus large. Donc il faut bien se rendre compte que ce sera toujours aussi un métier d'artisan. Ça le restera, quoi qu'on en dise. Et j'ai même tendance à dire que je le souhaite, parce que si ça ne l'était plus du tout, ça poserait d'autres types de questions. Et pour le coup, en Belgique, on est beaucoup moins utopique, puisque là, je crois qu'il n'y a pas 3 auteurs qui en vivent dans la fiction, alors dans le jeu de rôle, autant dire.
Alors je commencerai par une citation d'un personnage réel très très connu, c'est « Fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai ». C'est une autre façon de dire, de poser ses parties génitales sur le coin de la table, mais je pense que ça fait moins mal. plaisanterie mise à part, c'est vrai que le réseau compte pas mal. Mais le réseau, il se crée, et quand je cite Yoda, c'est pas pour rien, c'est déjà un, quand on a un projet, quelle que soit sa forme, que ce soit une illustration, un texte, un jeu de rôle, déjà il faut arriver jusqu'au bout. Et c'est souvent ce que les gens ne font pas. On finit un truc, et une fois que c'est fini, après on peut revenir dessus 15 fois s'il faut, mais il faut au moins le finir. Et ensuite on peut le proposer à des gens. Et le proposer à des gens, c'est l'envoyer de manière ciblée et intelligente. Et aussi d'aller sur des... On a la chance dans notre milieu d'avoir un peu de conventions et des fois des éditeurs qui se déplacent. C'est aussi aller à leur contact et de voir ce qu'eux, ils envisagent sur une ligne éditoriale et ce genre de choses. Et sinon, pour conclure sur une note positive quant au réseautage, il se trouve que j'ai parfois un humour vraiment pourri. Et ceux qui me connaissent savent que je suis plutôt assez féministe dans l'âme. Et ma dernière éditrice, je l'ai rencontrée à Trolls et Légendes il y a donc 2 ans maintenant. Et on me l'a présentée comme ça, Florence, Fabien, Florence. Et j'ai lancé une blague, mais alors vraiment hyper misogyne, mais vraiment pourrie, quoi, mais vraiment du fond. Donc elle n'a pas su comment le prendre. Après, on n'en a pas reparlé. Et donc, il y a un an, je lui ai proposé parce qu'on s'est revus comme ça dans d'autres lieux, je lui ai proposé un projet. Et elle m'a dit, ah, c'est super, mais je voulais te reparler de notre première rencontre. et elle ne savait pas comment le prendre. Donc, mais en même temps, ça l'a marqué. Hein, donc, elle l'a bien pris, elle a bien réussi à voir que j'avais un humour pourri. Donc, du coup, ça s'est bien passé. Mais il ne faut pas hésiter à soumettre des projets, mais aussi de les soumettre de manière intelligente. Il ne faut pas envoyer la énième version de Donjons et Dragons à, je ne sais pas, aux 12 singes ou à Matago en se disant que c'est super original parce que les elfes, ils n'ont pas les oreilles pointues. Il faut arrêter avec ces conneries. Faut creuser un peu plus et peut-être creuser le fond plus que la forme, des fois, et pour arriver à quelque chose.
On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression, visiblement. Donc, on est malheureusement arrivé au bout du temps pour cette table ronde, donc on ne prendra pas de questions. C'était sur représentation et idéologie, mais je crois qu'on a beaucoup appris sur le milieu des auteurs, de la production, de la création dans le jeu de rôle. Alors, je propose qu'on remercie les intervenants. Et on va passer à la deuxième table ronde de ce soir.